Libradio, la station debout. www.libradio.org.
Voilà, il y a 150 ans se crée l'Association internationale des travailleurs. Le 28 septembre 1864 est fondée l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, lors d'une grande assemblée d'ouvriers anglais, français, italiens, polonais et irlandais au Saint-Martin's Hall de Londres. Bienvenue Georges Tissot, nous sommes ravis de te recevoir ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir, tu es donc l'ancien président de la CGS ici à Genève. La CGS désignant, dis-le toi, parce que moi je viens de vous faire une erreur et j'y tiens pas.
C'est la communauté genevoise d'action syndicale qui regroupe tous les syndicats du canton de Genève, quelle que soit leur origine, leur affiliation nationale.
Ouais, voilà. Et alors tu es parmi nous parce que nous allons parler justement de cet anniversaire, alors plus précisément pas de la fondation de l'AIT, donc en 1864, mais du premier congrès qui lui s'est tenu ici à Genève, dans le quartier des Eaux-Vives.
Dans la commune des Eaux-Vives.
Dans la commune des
Eaux-Vives. Qui à l'époque faisait pas partie de la ville de Genève.
Absolument. À la brasserie Trébert, plus exactement, c'est très ça. Précisément. Ouais. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, c'était le premier congrès qui devait au départ, si j'ai bien compris, se tenir en Belgique, mais on reviendra là-dessus, hein, et qui s'est finalement tenu à Genève avec une soixantaine de délégués. Mais nous allons égrener le détail de tout cela. Si tu veux bien, pour commencer, j'aurais envie de te demander de te présenter un petit peu plus précisément que ce que je viens très succinctement de dire de toi.
Alors je m'appelle Georges Tissot, je suis maintenant retraité. J'ai travaillé pendant à peu près presque 40 ans au syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs. Je me suis occupé de la métallurgie, puis après j'ai eu des tâches interprofessionnelles, j'en ai été secrétaire général. Et en même temps, on est rentré dans la communauté genevoise d'action syndicale en 95, sauf erreur. Et j'ai aussi été dans le bureau de la CGAS et le président de la CGAS. Et actuellement, je fais encore des choses d'une façon militante pour le syndicat. Et je suis également vice-président de l'Université ouvrière de Genève, qui n'est pas loin d'ici, aux Grottes. Et c'est dans ce cadre-là, de la CGAS, de l'UOG, qu'on a décidé de faire une commémoration de cet anniversaire. Pour les 100 ans, il y avait eu un immense bastringue au Palais des Expositions, qui à l'époque était au boulevard Karl Vogt, où il y avait un conseiller fédéral qui était venu, et où les syndicats alors avaient donné au musée d'art et d'histoire le drapeau de l'international, qui depuis a été perdu, semble-t-il, parce que le musée d'art et d'histoire ne savent pas ce qu'ils en ont fait. Mais enfin bon. Et ils avaient fait donc une très grande manifestation. Alors on a été plus modeste, on s'est dit on va faire une commémoration pour ne pas oublier ça, parce que aussi ça parle dans la période actuelle. L'internationalisme, enfin maintenant on appelle ça le mondialisme, mais c'est quelque chose d'actualité.
Oui, tout à fait. Alors on va tout à l'heure égrener justement le programme qui va commencer d'ailleurs tout soudain, puisque dès le samedi 24 septembre, samedi prochain, des activités sont prévues de 10h à 13h. Rendez-vous à l'entrée principale du cimetière de Saint-Georges, à ce que je vois, vers les fleuristes, et il y aura une promenade dans les lieux de mémoire ouvrière à Genève, une promenade commentée.
Une promenade commentée. Et alors le problème, on s'est dit, on va aller dans les endroits qui rappellent l'international, qui rappellent les débuts du syndicalisme ou des partis de gauche. Et en fait, il n'y a plus grand-chose. C'est pour ça qu'on commence au cimetière, parce que là, il y a la tombe de celui qui avait présidé le premier congrès, qui s'appelle Johann Philipp Becker, qui est un Allemand, mais qui résidait à Genève, qui est mort à Genève. C'est pour ça qu'il est enterré à Saint-Georges et qui a été un des fondateurs du Parti social-démocrate allemand. Mais il reste très peu d'endroits. La brasserie Treibert, où il y a eu le premier congrès, on ne sait même pas exactement où c'était, parce qu'elle a changé de place plusieurs fois, elle a brûlé, etc. Donc on ne va pas aller vers la brasserie Treibert, ça sert à rien, et plusieurs immeubles n'existent pas. Donc on va se borner, aller sur des endroits qui parlent du mouvement ouvrier genevois. On va voir la tombe de Johann Philipp Becker, mais aussi de de Émile Nicolet, qui était un secrétaire syndical, qui a une rue à Genève. Et puis après, on ira vers des monuments du mouvement ouvrier, mais qui ne sont pas forcément d'époque, comme notamment la pierre du 9 novembre 1932 et le monument aux brigadistes de la guerre d'Espagne.
Juste en face, juste dans la continuité.
Mais avant, on passera vers le buste de Georges Favon, parce que c'est quelque chose que les gens ne savent pas. C'est un conseiller d'État radical, mais qui se réclamait quand même du socialisme. Et c'est lui qui a fait le premier discours du 1er mai à Genève en 1890.
Ah bah voilà.
C'est assez rigolo.
Ouais,
absolument. Il y a une statue au bout de la plaine de Plein Palais où c'est marqué dessus « Pas de progrès sans justice sociale ».
C'est pas mal.
Pour un radical, c'est pas mal.
Quand même, ouais. Alors, bien entendu qu'après, je t'interrogerai après sur ce qui a fait naître, finalement, ce qui a conduit ces personnes à se rassembler pour créer en 1964 l'International et puis ce congrès à Genève. Mais avant cela, puisqu'on est dans le sujet un petit peu de l'histoire et des lieux de mémoire qui sont, comment dire, absents, certains en tout cas, tu viens de le dire, est-ce que c'est un problème récurrent, ce problème d'archives, des milieux contestataires, des moments contestataires de l'histoire ?
Non, les archives, on a quand même pas mal de choses. Par exemple, il y a un centre à Amsterdam, ce Ferreur, où il y a beaucoup d'archives du mouvement ouvrier. Et on trouve, par exemple, tous les PV du congrès rédigés à la main. On peut les télécharger, la plupart des choses, etc. Mais il y a effectivement, par exemple, on n'a qu'une seule photo de ce congrès. On voit les congressistes devant la brasserie, on n'en a trouvé aucune autre, on n'a pas de photo de la brasserie, on a une photo de l'intérieur mais qui ne date pas de la même époque. Mais quand même, il y a des efforts qui sont faits à Genève, il y a notamment le Collège du Travail qui fait beaucoup de travail là-dessus et qui participe à cette commémoration. Il y a en Suisse romande l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier aussi, qui fait beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses qui existent et ça se développe de plus en plus. Maintenant, en plus, avec l'informatique, on arrive à numériser les documents, on peut se les passer comme ça, alors qu'avant, c'était extrêmement compliqué. Ce qui existe plus, c'est qu'effectivement, les bâtiments, notamment, ont tous été... Il y avait une maison du peuple à Genève où Lénine a parlé. Il y avait une brasserie qui s'appelait Handwerk, qui était... où il y a maintenant une boulangerie bien connue au bord de la plaine de Plein Palais. Et c'était une brasserie où ils avaient commémoré la Commune de Paris avec deux orateurs. On est sûr d'un des deux, mais pas tellement de l'autre. L'autre dont on n'est pas sûr, c'est Lénine, mais il était probablement là. Et l'autre orateur, c'était Mussolini, qui à l'époque était d'extrême gauche.
Absolument.
Mais ces lieux-là n'existent plus. Enfin, la maison là, de la brasserie Handwerk existe. Mais il y avait une maison du peuple où Lénine a parlé qui a été rasée. Et la terrassière aussi, c'est tous des immeubles qui étaient... il y avait un siège des syndicats qui était à la rue de Champoulet. C'était le Grutli qui était le précurseur des syndicats qui a aussi été démoli, celui-là relativement récemment. Donc c'est vrai que notamment aussi la démolition des fortifications a fait disparaître toute une série de bâtiments. Et il y avait aussi... il y avait des bistrots où les congressistes se réunissaient qui ont tous disparu. Ouais. Et le dernier de ce qui a disparu, c'est qu'ils ont fait leur congrès, on en parlera tout à l'heure, mais ils ont fait leur congrès sur une semaine et le dimanche ils ont terminé par un banquet, mais auparavant ils avaient fait une promenade sur le lac sur un bateau qui a pas duré plus longtemps que la nationale. Il a coulé visiblement 4-5 ans après. Et ils avaient un grand drapeau sur le bateau, aux grandes dames des bourgeois de Genève qui voyaient ce bateau sur le lac avec un grand drapeau rouge.
Qui voguait comme ça à l'assaut des,
c'est ça,
des communes. Ouais. Alors, c'est vrai que Genève est particulièrement, a été particulièrement un lieu de rencontre comme ça de personnes suspectes, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, tu as évoqué Lénine, on pourrait évoquer Bakounine également, on pourrait évoquer Bertoni hein, avec le réveil anarchiste. Je crois que d'ailleurs, au Landolt aussi, il y avait eu Lénine qui s'était pointé.
On ne sait pas si c'est une légende, mais ouais. Oui, ben, Lénine, il était partout à Genève. Enfin, il est resté, je ne sais plus combien de temps, mais pas mal de temps. Il y a une plaque sur une maison de la rue des Plantes à Porret. On passera devant avec la balade. On passera devant cette plaque qui a été mise, je crois, il y a une trentaine d'années. Il avait résidé dans cette maison. Il avait résidé à Carouge aussi, dans une maison qui s'appelle la Maison Lénine. Il a résidé, il avait une société d'édition qui était au bout de la rue de Carouge, tout près du pont de Carouge, et qui, on a, les gens appelaient ça la petite Russie, parce qu'il y avait beaucoup d'exilés russes, effectivement. Alors, par contre, le congrès de l'international, c'est un petit peu un hasard. Donc, pas pour faire l'histoire, mais disons, le premier congrès, la première assemblée constitutive se tient à Londres. Ce qui est très rigolo de constater, c'est qu'en fait, c'est grâce aux expositions universelles qu'il y a eu ce début d'internationalisme. Parce que les ouvriers se sont rencontrés, il y a des ouvriers qui étaient envoyés dans les expositions universelles par leur entreprise, etc. Les expositions universelles, c'était l'endroit pour faire preuve de la technique nouvelle, etc., l'industrialisation nouvelle. Et ces délégués qui allaient à Londres, notamment, ils ont eu des contacts avec les ouvriers de Londres, par exemple. Enfin, ils venaient de tous les pays. Et puis, ils se sont dit, mais il faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour résister au patron, pour résister à l'exploitation, etc. Et c'est à cause de ça qu'ils se sont vus à Londres et ils ont créé l'International. Alors, la création de l'International, elle se fait au meeting dont tu as parlé, avec notamment Marx, Bakounine, Engels, etc. Et ils décident de faire un congrès constitutif où ils adoptent les statuts et un programme. Et ils voulaient le faire à Bruxelles. La Belgique venait de faire passer des lois anti ce que tu as qualifié de. Enfin, des réfugiés.
Voilà,
etc.
Exactement, les migrants.
Donc, pour finir, ils viennent à Genève, un peu par hasard. Le congrès suivant aura lieu à Lausanne. Puis après, ils iront, je crois, à La Haye, ils retourneront à Londres. Mais il y aura encore un congrès à Bâle. Et c'est. Donc, ils viennent au congrès à Genève. Comme tu l'as dit, il y avait une soixantaine de délégués. Et pas de délégués, il n'y avait pas de femmes. C'était d'ailleurs un des débats qui a eu lieu lors du congrès, on peut en reparler tout à l'heure, c'est assez intéressant. Et c'était des ouvriers. Donc ils avaient voulu que les délégués à ce premier congrès de l'International ne soient que des ouvriers. Pour certains, c'était un peu. C'était des ouvriers, on disait que c'était des artistes, etc. Donc c'était. Johann-Philippe Becker n'était pas vraiment un ouvrier. Par contre, Marx, Bakounine, Engels n'étaient pas là. Et ça a été un débat aussi de savoir si on acceptait que des gens comme Marx puissent être délégués. Et pour finir, le congrès a accepté. Donc le congrès suivant, Marx. Je ne sais pas s'il sera là, mais enfin, il pouvait participer.
Très bien. On va continuer à égrener le programme en même temps.
Ouais.
Parce que là, on en arrive au jeudi 29 septembre, donc toujours ici à Genève, à l'Université ouvrière, donc là également un lieu. Alors, est-ce qu'on peut considérer l'Université ouvrière comme un lieu de mémoire quelque part déjà ? C'est en tout cas un lieu de pratique et de. Parce que finalement, c'est également le fruit de conquêtes ouvrières.
Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que l'Université ouvrière, elle a fêté ses 100 ans il y a 5 ou 6 ans. Et on est en train d'écrire un bouquin là-dessus qui s'appellera Le premier siècle et pas les 100 ans. Mais l'université ouvrière, elle est née d'abord par des intellectuels, des profs d'uni ou des jeunes universitaires qui voulaient partager le savoir avec les ouvriers. Disant, il faut que les ouvriers... Alors il y avait des cours d'astronomie, des cours de physique, des cours où ils ont présenté comment marchait le cinématographe, qui était une nouvelle invention à l'époque. Donc c'était plus une volonté, disons, bourgeoise, d'intégration des ouvriers à un consensus social.
Donc c'était plus unilatéral, c'est ça que je veux dire, dans le sens où ça provenait quand même plus de...
Ça provenait plus de l'université, donc de la bourgeoisie. Mais ça marchait quelque temps, c'était pas l'université ouvrière, ça s'appelait autrement. Et puis au bout d'un moment, ça marchait plus tellement. Donc là, ils ont pris contact avec les syndicats. Et les syndicats se sont lancés dedans. Et puis, de fait, effectivement, il y a eu les deux aspects qui ont cohabité, des cours vraiment scientifiques importants, et puis alors, de plus en plus, des cours syndicaux pour apprendre aux gens une convention collective de travail, comment militer, comment prendre des notes, comment négocier, etc., ce genre de cours. Donc, il y a les deux aspects, mais c'est vrai que c'est un... un lieu de mémoire. Et c'est quand même, c'est quelque chose qui s'est passé dans d'autres régions. Il y avait à Londres, justement, aussi. En France, il y avait beaucoup de... Ils disaient plutôt des universités populaires que des universités ouvrières. Mais enfin, c'est, mm-hmm. c'est quasiment la même chose.
Ça rappelle également, d'une certaine manière, les bourses du travail, le mutualisme,
la mise en commun. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. C'était justement des... les bourses du travail, c'est plutôt des... c'est les syndicats, c'est les services que les syndicats peuvent rendre au point de vue de l'emploi. Mm-hmm. Après, il y aura la naissance en Suisse des caisses de chômage dans le cadre des syndicats. C'est les syndicats qui créent les caisses de chômage. Ouais. C'est un mutualisme, c'est les assurances maladie aussi qui sont créées en grande partie par les syndicats, beaucoup. Donc, c'est les bourses du travail, c'est plus un endroit de réunion où on rend des services aux gens. Il y a souvent des cantines où viennent les chômeurs, par exemple, à Genève, ça existait, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement.
Mais c'est effectivement le début de l'université ouvrière, c'est avec la chambre syndicale qui existait à l'époque.
Ouais. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'université ouvrière, du coup, connaît un essor sans précédent ces dernières années. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens encore, il y a de cela quelques années, où les inscriptions, notamment pour les cours de français, étaient assaillies de personnes qui avaient envie, justement, de pouvoir accéder à ces savoirs, disons, ces savoir-faire.
Oui, alors, j'ai pas les chiffres, parce que je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais ça fait rien, c'est très bien.
Oui, tout à fait, c'est complètement impromptu, je dois dire.
Ça fait rien. C'est quand même un peu le même sujet. C'est vrai que l'université ouvrière, elle a cette particularité que dans les années 60, ceux qui étaient à l'époque à la tête de l'université ouvrière et les syndicats ont dit « c'est très bien, mais c'est plein d'ouvriers étrangers qui viennent et ces ouvriers étrangers ne connaissent pas le français ». Ce qui était d'ailleurs un handicap pour les assemblées syndicales d'ailleurs. C'était un peu difficile de se comprendre. Donc l'UOG fait à ce moment-là des cours de français qui alors se sont développés d'une façon exponentielle. Effectivement, comme tu viens de le dire, et puis après des cours plus axés aussi sur les professions, c'est-à-dire il faut savoir le français pour exercer telle profession, il faut savoir les mathématiques, maintenant c'est pas des cours de mathématiques, mais c'est d'apprendre à apprendre, etc. Donc c'est vrai que l'université ouvrière a connu un développement énorme. Enfin, moi, quand je fais partie du bureau du comité depuis, je sais pas, presque une trentaine d'années. On était dans une petite maison qui était un appartement modifié aux Acacias. Et puis maintenant, c'est un grand immeuble avec des salles de classe, etc. Et puis ça, il y a, je ne sais pas combien, il y a des milliers de personnes qui passent chaque année.
Ouais, en tout cas, c'est effectivement impressionnant. C'est un lieu cosmopolite, certes. Donc là, on revient à cette idée d'internationalisme. Est-ce que c'était évident que ce soit là et pas ailleurs que vous proposiez justement cette partie du jeudi 29 septembre, où donc de 18h30 à 22h30, il y aura toute une partie de discussion autour justement de ce premier congrès.
Alors non, c'est pas par hasard. D'ailleurs, l'UOG participe à la commémoration avec tous les syndicats, avec l'Association d'études du mouvement ouvrier, le Collège du travail, la revue Passé Simple aussi, qui a consacré un dossier très intéressant sur ce congrès, une dizaine de pages. Mais effectivement, il y a des salles disponibles, et puis c'est un lieu qui nous appartient quelque part. Donc on s'est dit, on va faire ça à l'UOG. Alors on fait un débat qui est à double sens. On n'a pas voulu faire quelque chose de totalement historique. Et on a une partie qui sera une partie historique avec Marianne Henkel et Marc Villemier, qui sont deux historiens. Marianne Henkel est plutôt une militante qu'une historienne, mais elle est aussi historienne. Marc Villemier est aussi militant, mais c'est un des plus grands historiens de Genève sur l'histoire du mouvement ouvrier. C'est un puits de savoir et de science. Donc il y aura une partie avec eux qui raconteront ce congrès, mais qui le resitueront dans le moment actuel. Après, on aura des chants. La Comédie de Genève va chanter deux chants. Ils devaient en faire quatre, ils vont en faire que deux, mais enfin, dont l'international, évidemment. Et après, on aura un débat avec deux personnes qui, alors, portera sur la situation actuelle en disant... ce congrès, la première internationale, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et à quoi ça peut servir pour se battre aujourd'hui contre la mondialisation, etc. Et donc, les deux personnes qui sont invitées, c'est Julia Gousseva, qui est une militante russe du centre Praxis à Moscou, qui est un centre qui s'est fondé sur la bibliothèque de Victor Serge, qui était un,
ouh là là.
Oui, qui était un anarchiste ou trotskiste. On n'a jamais très bien su parce qu'il s'est fait expulser par Staline, et puis après il s'est brouillé avec Trotsky, visiblement, qui est mort il y a très longtemps. Il est mort, je crois, dans les années 30-40. Et l'autre invité, c'est Bernard Thibault, qui est l'ancien secrétaire général de la CGT française, et qui est actuellement au conseil d'administration du bureau de l'Organisation internationale du travail, et qui a toujours été dans la mondialisation aussi, etc. Et il est pas à la retraite, il est plus secrétaire général, mais il a pas rendu les plaques, donc il aura beaucoup à nous dire. Ils auront les deux beaucoup à nous dire.
Alors, on va un petit peu anticiper les débats qui auront lieu, sans entrer trop en matière, mais selon toi, donc, là, on va au devant d'une régression sociale sans précédent. On en a parlé tout à l'heure en off, la RIE3, l'AVS est aussi sur le grill en ce moment. Donc des attaques frontales, vraiment, des sites du capitalisme. Quel rôle, comment est-ce qu'on affronte ça et comment est-ce qu'on tord le cou à ces attaques frontales, justement? Juste pour anticiper un petit peu ce qui va de toute manière être discuté lors de ce moment du 29.
C'est un peu difficile à dire. Je pense qu'effectivement, l'internationalisme et la façon de se battre contre un certain type de mondialisation, ce qui nous a intéressé aussi, c'est de... Par exemple, on a demandé à Julia Gousseva de parler de la montée du nationalisme. Et ça, c'est pour nous, c'est peut-être le point le plus important. Je pense que la division des travailleurs, non pas entre syndicats, mais division des nationalités, le racisme, la xénophobie, qui font monter des forces politiques d'extrême droite, comme le Front National en France, le MCG ou l'UDC à Genève, ça c'est le plus grand danger, le plus grand handicap que peut avoir le mouvement ouvrier pour se battre. Et c'est clair que c'est très difficile, parce que c'est aussi dans nos rangs. On sait très bien que les ouvriers, par exemple en France, on sait très bien que le Front National est presque le principal parti ouvrier maintenant. Les gens votent à droite, à l'extrême droite, comme dans les années 30. D'ailleurs, c'était aussi, je veux dire, Mussolini venait du socialisme. On sait comment il a fini. Et c'est, pour moi, c'est vraiment c'est la prise de conscience, c'est de la façon de se battre, c'est d'expliquer aux gens qu'ils arrivent à comprendre quels sont les phénomènes qui les attaquent, et que si y a des licenciements dans une entreprise, s'il y a du chômage, c'est pas parce qu'il y a des frontaliers. S'il y a des licenciements dans une entreprise, c'est pas parce que les gens ils ont mal travaillé, c'est simplement parce que c'est la logique du système capitaliste. C'est même pas parce que les patrons sont méchants. Il y en a qui sont méchants, mais enfin pas tous. Mais c'est vraiment la logique du capitalisme de dire il faut de la flexibilité, etc. Alors une certaine flexibilité, évidemment, on n'est pas contre. Enfin, les métiers ont évolué, les techniques ont évolué, l'entrée de l'informatique qui commence à être vieille, mais enfin qui se développe sans arrêt, change beaucoup de choses. Mais sans faire du passéisme et sans faire du conservatisme, il faut qu'on arrive dans un cadre qui change, dans une économie qui change, à maintenir des acquis sociaux, par exemple l'AVS, justement des choses comme ça. D'ailleurs, c'est très controversé maintenant. Il y a beaucoup d'économistes, même pas très à gauche, qui disent que ça serait une très grande bêtise de pas augmenter les rentes AVS, parce que ça participe aussi du développement économique. Je me souviens toujours quand il y a eu le début de la crise en Suisse, c'est très vieux, c'était en 74, il n'y avait encore pas beaucoup de chômeurs. 75, on avait passé de 17 chômeurs à 1000 chômeurs. Il y avait un directeur, je ne sais plus si c'est de Paribas ou du Crédit Lyonnais, qui disait, en fait, maintenant, ce qui nous sauve, c'est qu'il y a l'assurance chômage. Parce que dans la crise des années 30, il n'y avait pas d'assurance chômage, où elle était très très faible. Donc, il y a eu de la déflation, et puis les gens, ils n'avaient plus rien à manger. Et puis les gens, ils n'avaient plus de moyens d'acheter. Donc l'économie dégringolait. Alors qu'avec les indemnités de chômage, donc ils disaient ça d'un point de vue purement économiciste, ils disaient ben justement les indemnités de chômage, ça permet à l'économie de ne pas dégringoler. Donc à part le fait que ben, c'est très bien que les chômeurs ils touchent de l'argent, c'était même bien pour une économie capitaliste.
Ouais. Alors, j'ai envie de te poser cette question-là, tu me diras si elle est pertinente ou pas, mais là on parle beaucoup de mémoire et de choses qui ont été acquises, qui sont remises en question maintenant. On voit bien les remises en question massives qui ont cours actuellement. Et en même temps, on a ce monde avec ces nouvelles technologies qui surgissent à foison un petit peu partout. Alientel, Libertel, ça, je ne sais pas, hein, ce sera notre postérité, nos contemporains qui nous le diront. Mais est-ce que est-ce que dans ce cadre-là, il y a cette idée aussi de se dire, eh bien, quel va être le rôle de ces nouvelles technologies ? Parce qu'effectivement, alors là, on parle de cette espèce de village mondial. L'information circulerait-elle vraiment partout et plus facilement qu'avant ? Est-ce que du coup, on arriverait à se solidariser ou en tout cas à installer de nouvelles modalités de lutte et de conscience qui pourraient justement surgir et nous permettre de lutter différemment. Est-ce qu'il faut un petit peu se réinventer par rapport à ça, selon toi ?
Ah, il faut totalement se réinventer, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe. C'est vrai que les nouvelles technologies, quand on a commencé à en parler, on avait même fait un congrès de notre syndicat sur les travailleurs face aux nouvelles technologies. Et je me souviens, il y avait des copains qui étaient très hostiles aux nouvelles technologies, disant « jamais j'aurai un ordinateur chez moi », etc. 20 ans après, 30 ans après, tout le monde a un ordinateur et puis on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc effectivement, ça nous demande de nous réinventer. Ça, bêtement, sur le plan pratique, je veux dire, on a tous les syndicats ont créé des sites internet, etc., ce genre de choses. Et la communication, effectivement, elle est aussi simplifiée pour nous. Quand je travaillais au niveau roman, quand on voulait faire un tract pour toute la Suisse romande, ça nous prenait 2 mois parce qu'on s'envoyait des projets qu'il fallait retaper, etc. Maintenant, ça prend 2 jours et même pas. Bon, ça, c'est un peu de l'anecdote, mais effectivement, moi, j'arrive pas à dire que les nouvelles technologies sont aliénantes. Je pense qu'elles changent. Simplement, c'est comme la mécanisation. La mécanisation, quand ils ont commencé, par exemple, à mettre des machines sur les chantiers dans les années 30, certains syndicats ont été cassés les machines en disant les machines vont nous prendre des emplois.
Voilà.
Donc c'était une réaction qu'on comprend, mais c'était en même temps c'était stupide.
Ouais. Oui, alors justement, j'ai demandé, voilà, ces mouvements néo-ludites qui se disent, voilà, alors on n'est pas a priori contre toute forme de modernité, mais on veut la brider quoi qu'il en soit parce qu'on sait où elle peut nous mener. Peut-être qu'il y aurait là un morceau de solution, le fait de justement... Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas la nouvelle technologie en soi, mais c'est le dispositif dans lequel elle s'inscrit qui conduit à son utilisation mécanique ou en tout cas néfaste. Par exemple, tout ce qui concerne, mais ce n'est pas les questions qu'on va aborder ce soir parce qu'elles sont trop complexes et puis ce serait dommage de ne pas y répondre, de ne pas prendre le temps d'y répondre, mais concernant les flux migratoires, on voit bien que là, la nouvelle technologie concernant les différents programmes de détection des personnes qui sont en train de passer des frontières, je parle notamment des bateaux dans les frontières extra-européennes, aux frontières de l'Europe, et puis bien entendu des prises d'empreintes digitales dans le cadre, par exemple, de l'opération Dublin, quoi, du système Dublin, utilise ces nouvelles technologies-là dans un dispositif quasi automatisé qui peut même d'ailleurs nous rappeler de très funestes années où finalement l'humain et puis son humanité font défaut parce qu'elles sont, absentes du dispositif, elles sont neutralisées par le dispositif.
Oui, mais en même temps, je veux dire, est-ce que c'est... Bon, c'est plus efficace, ça va plus vite, etc. Je suis pas sûr que quand les douaniers suisses rejetaient les juifs à la frontière pendant la guerre, c'était pas beaucoup plus humain que de le faire avec des ordinateurs.
Effectivement.
Donc c'est... Alors effectivement, c'est plus efficace. Mais je pense que ceux qui résistent deviennent aussi plus efficaces. Donc moi, ce qui pose un problème réellement, c'est que les nouvelles technologies, notamment, elles ont changé l'économie, elles ont changé les métiers. Et on parle de l'Association internationale des travailleurs, c'était même pas ouvrier. On parle plus d'ouvriers maintenant parce qu'il n'y a plus d'ouvriers. Enfin, oui, il y en a, mais les métiers ont tellement changé que ça a des effets aussi sur les gens, sur le type de profession qu'ils pratiquent, sur la, leur responsabilité dans le processus, soit productif, soit de... Bon, la production, c'est plus non plus ce qui se fait le plus. Enfin, une ville comme Genève, il n'y a quasiment plus d'usines. Enfin, il y en a encore, mais oui, de l'horlogerie, mais il y avait de l'industrie dans le temps, il n'y en a plus. Donc, c'est, ce changement des métiers fait aussi que les gens changent, que les syndiqués, par exemple, pour ce qui nous concerne, changent, et que c'est, on n'a pas la recette pour le moment de créer des militants dans le temps. Un militant ouvrier, c'était quelqu'un de bien défini, on savait qui c'était, etc. Les gens qui étaient là au congrès de 1866, ce n'étaient pas vraiment tout à fait des ouvriers, c'était plutôt des artisans. Il y avait des relieurs, des typographes, des gens comme ça, des peintres. Ils n'étaient pas à leur compte, mais enfin, c'était des artisans. Et maintenant, après, les ouvriers, c'est devenu des prolétaires. Enfin, c'était vraiment des gens qui sont toute la journée sur une machine à faire des pièces, etc. Mais ce type de boulot, il existe. Bon, il existe encore dans les pays du sud-est asiatique, en Chine, etc. Mais il est quand même très différent de celui qui se pratiquait même il y a 30 ans. Et c'est vrai que pour nous, les travailleurs, avec ce changement des métiers, perdent une conscience de classe. Ils n'ont plus l'impression de faire partie d'une classe ouvrière, etc. Et ça nous pose un problème, nous, aux syndicats, aux organisations politiques de gauche aussi, d'ailleurs, d'avoir des gens qui prennent en main le militantisme et la lutte. On le voit dans le développement des syndicats actuels. Beaucoup de choses se font par les syndicats, mais c'est de plus en plus par les permanents syndicaux et de... Bon, faut pas généraliser non plus, mais enfin, par rapport il y a 20 ou 30 ans, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de militants de base dans l'entreprise, etc.
Alors justement, tu parles de déficit de conscience de classe, déficit de conscience critique. Nous, on essaie, et effectivement, on est confronté à ça au travers de ces nouvelles technologies. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la vitesse qui est inversement proportionnelle à la profondeur de la réflexion et à la critique justement de ce qui nous entoure, de notre condition. Et est-ce que ça, c'est un constat que vous faites, que tu fais toi également? Et justement, le fait de produire ce type d'événement permet peut-être de suspendre à un moment donné le temps et de se dire, prenons le temps de réfléchir à ce qui est certes un événement du passé, mais qui bien entendu a des nombreuses analogies avec le présent et le futur. Est-ce qu'il faut à un moment donné justement suspendre ce temps qui s'écoule de manière en flux ininterrompu? Et la deuxième partie de la question, le deuxième volet de la question, c'est pour toi, quelle responsabilité portent les médias, s'ils en ont une, les médias de masse, justement par cette promotion de cette vitesse, de cette information en continu, en jet continu?
C'est compliqué de répondre, mais sur le premier point, Ce qui me frappe, c'est, enfin, je crois que on en parle dans le bouquin qu'on fait sur l'université ouvrière. On avait voulu, quand il y a eu le début du chômage, enfin, au bout de quelques années, on a fait des cours pour les chômeurs. Et on a fait des cours où il y avait des techniques de recherche d'emploi, etc., des trucs, comment faire en cure économique, etc. Puis en même temps, dans les mêmes cours, dans les mêmes programmes, il y avait des cours d'économie et des cours de militantisme. Et on disait, le cours d'économie, il est pour montrer aux gens qui ne sont pas responsables de leur chômage. C'était ça le but. On disait, il faut qu'on profite, entre guillemets, des gens qui sont là au chômage pour leur expliquer pourquoi ils ne sont pas responsables de leur chômage. Ils ne sont pas coupables. Ils sont coupables de rien du tout. Et ça, c'était extrêmement important. Ça s'est un peu délité dans le temps. Je pense aussi qu'avec l'augmentation du chômage, les gens... Mais au début, c'était vraiment, les gens se sentaient coupables quand ils étaient licenciés. C'était la honte d'aller toucher des indemnités. Moi, j'ai connu ça au syndicat. C'était assez difficile. Donc, cet aspect d'explication, je pense que c'est vrai. Si on a fait cette commémoration, c'est pas... Oui, c'est pour l'histoire, parce que c'est important quand même, ça fait 150 ans, c'était à Genève, c'était... Voilà. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est d'une part ce que les historiens vont dire, parce qu'ils vont... c'est pas des gens qui sont déconnectés de la réalité. Ils vont quand même parler d'aujourd'hui. Et puis la deuxième partie du débat qui effectivement n'aura rien d'historique, mais qui situera, qui dira, enfin j'espère qu'ils vont le dire, mais je pense en tout cas, moi je connais pas très bien Julie Gousseva, mais Bernard Thibault, on l'a entendu souvent, qui permettra de dire vers où il faut aller. Mais en même temps, alors la réflexion, elle a lieu dans les syndicats, dans les partis de gauche aussi. Elle a lieu, mais elle est compliquée. Et moi, je suis à la retraite maintenant depuis 5 ans. Et des fois, on vient me demander des conseils. Puis je leur dis, mais je peux pas. Ça a tellement changé, même depuis 5 ans, que je peux rien vous dire. Enfin, pas rien. Je peux leur rappeler comment on fait, comment on faisait dans le temps. Mais je peux pas leur dire, vous devez faire comme ça. Et je pense que c'est difficile. Et c'est un processus...
un work in progress,
ouais. Voilà, de s'adapter, de trouver. On a certains syndicats, certains partis ont fait des choix, etc. Ils se rendent compte que c'est pas tout à fait juste ou que c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, ça, il y a des trucs qui réussissent, des fois pas. On a parlé de la manifestation qu'il y a eu à Berne pour l'AVS. Il y a eu très peu d'écho dans les journaux, en tout cas à Genève, ça a été misérable. Est-ce que de faire une manif comme ça, ça sert encore à quelque chose? Mais quoi faire d'autre? Alors le rôle des médias, bah, effectivement, ils ont mal parlé de la manifestation. Mais c'est vrai que les syndicats ont des journaux, ils essayent de dire les choses, ils ont des sites internet. Mais c'est le problème qu'on a, nous, avec l'information, c'est qu'on est noyé dans l'information. Le site internet, évidemment, on envoie les syndicats, ils envoient des emails à leurs membres, mais combien d'emails tu reçois par semaine? Voilà. On verra au débat s'il y a beaucoup de gens des syndicats qui auront lu les emails de leurs syndicats et qui viendront.
Absolument. C'est vrai que c'est pas évident. Écoute, on arrive doucement au terme de l'entretien. J'avais encore une question qui en fait suit celle que tu viens à laquelle tu viens de répondre. C'est concernant le choix des mots. Donc là, ce que vous avez choisi, c'est 150 ans après, quel internationalisme ouvrier pour le 21e siècle. Alors, j'aimerais que tu en dises quelque chose si tu veux bien, parce que, et c'est le sens de ma question, le choix des mots, c'est quand même quelque chose d'important. On en parlait juste tout à l'heure, au travers des médias. Tu en as parlé toi-même. On culpabilise des fois quand on perd son emploi. Et c'est vrai que si on reprend les conférences gesticulées, hein, desquelles nous, on est assez fans ici à Libre Radio, notamment Franck Lepage, hein, pour n'en citer qu'un, lui propose dans une de ses conférences justement une espèce de bagarre sémantique où il décode la manière dont on désigne les choses. Et il parle notamment de la différence entre quelqu'un que l'on va nommer comme exploité, donc ça sous-entend qu'il y a un exploiteur, qu'il y a une oppression, donc une résistance est légitime, et précaire, hein, qui serait la faute à pas de chance, ou la faute peut-être à la personne qui n'a pas fait bien attention, qui n'a pas su anticiper certaines choses, et qui est donc dans une situation de précarité de son fait à elle, ou en tout cas pas du fait de nouveau d'un dispositif ou de gens qui sont en amont et qui provoqueraient ça. Alors voilà, est-ce que toi tu es sensible justement à cette dénaturation des mots d'une certaine manière, et est-ce que ça justement dans le choix des mots que vous avez fait pour le programme en titre, en libellé de la commémoration, est-ce que vous avez été attentif à ça?
Oui, l'internationalisme, c'est pour nous une valeur qui existe depuis toujours, enfin que depuis au moins 150 ans, même avant. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a pris ce mot-là. Et on le pose, mais on le couple un peu avec la mondialisation, parce que c'est aussi la mondialisation des luttes, l'internationalisme. Il y a eu beaucoup dans les syndicats, dans les partis de soutien à l'internationalisme. Enfin, on disait les brigadistes, il y a des gens qui sont partis en Espagne pour se battre. Il y a eu... c'est un tout petit exemple, mais quand il y a eu le coup d'État au Chili en 1973, les usines genevoises ont débrayé pendant une heure. Donc voilà, alors ça n'a pas changé, ça n'a pas tué Pinochet, mais enfin quand même, malgré tout. Donc cet aspect-là, c'était aussi une prise de conscience. Donc l'internationalisme, oui, on assume ce mot, et ouvrier aussi. Alors évidemment, maintenant on parle de travailleur, on parle d'employé, etc. Mais le ouvrier, dans le sens premier du terme, c'est celui qui travaille, c'est celui qui œuvre. Donc tout le monde est ouvrier. On n'a pas parlé des prolétaires. parce que ça, c'est des mots qui sont un peu connotés, exploités aussi. L'international, c'est vrai que quand on la chante, elle fait quand même un petit peu vieux jeu, tant par la musique que par les paroles, mais enfin, c'est quand même quelque chose, c'est des valeurs auxquelles on croit toujours. Mais c'est vrai que le problème de la précarité, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas les gens qui sont responsables de leur précarité, c'est vraiment le système économique qui joue sur la précarité. On avait fait, il y a eu un conseil économique et social à Genève, on avait fait une étude sur les inégalités. Et on n'avait pas réussi à se mettre d'accord, il y avait des patrons, des syndicats, des gens de la société civile dans ce conseil économique et social. Et les syndicats, on avait dit, mais on ne va pas se mettre d'accord avec les patrons sur les inégalités. Parce que les inégalités, c'est les patrons qui les créent et c'est ce qui fait marcher le système capitaliste. Alors la précarité, elle est très difficile, elle est très difficile à contrer parce que, comme on disait, les gens se sentent coupables, etc. Et puis quand même, c'est rigolo peut-être de revenir très en arrière, là, il y a 150 ans, au congrès de Genève, il y a eu un grand combat entre les marxistes, pour dire vite, et les anarchistes, les proudhoniens plutôt, sur le travail des femmes. Et les marxistes étaient pour défendre les femmes, qu'elles puissent faire partie de l'international. Et très curieusement, les anarchistes étaient contre. Parce qu'ils disaient, il faut éviter aux femmes d'être sous l'exploitation des patrons. Mmh. Alors que les marxistes disaient plutôt, ça existe, donc il faut se battre contre. Mmh. Mais là, il y avait aussi l'aspect de la précarité, il y avait aussi l'aspect de la concurrence. Il y a des syndicats en Suisse qui ont mis très longtemps à accepter les femmes dans leurs membres, parce qu'elles n'étaient pas qualifiées, etc. Puis c'était des voleuses d'emploi, comme maintenant les frontaliers, enfin, ce qu'on dit des frontaliers, ce qu'on disait des femmes à l'époque. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, et c'était aussi, on touche là aussi à la question de la précarité, à la question de la division des travailleurs.
Ouais. Tout ça est très très intéressant et c'est vrai que ça mériterait qu'on en parle plus longuement. Pour ce soir, on va s'arrêter là, on va juste encore rappeler le programme et comme ça on te laissera conclure. Et puis par contre, effectivement, en tout cas, nous on appelle de nos voeux, on essaiera de venir si on est les bienvenus pour capter peut-être ces différentes discussions parce qu'elles me paraissent être déjà très très intéressantes.
Vous pouvez, on pense enregistrer, mais si vous voulez enregistrer vous, il n'y a aucun problème.
Okay, bon, on regardera ça, alors, mais en tout cas très très volontiers. Je reviens vite sur le programme, donc le samedi 24 septembre, samedi prochain, de 10h à 13h, rendez-vous à l'entrée principale du cimetière Saint-Georges, vers les fleuristes, donc à l'arrêt cimetière du bus 2. La promenade se termine dans le quartier de Plainpalais Jonction, et en cas de mauvais temps, la promenade sera renvoyée d'une semaine au samedi suivant, le 1er octobre. Ça, c'est pour les lieux de mémoire ouvrière à Genève, la promenade commentée.
Donc on fait un tour qui va du cimetière, on verra la tombe de Bertoni aussi, dont tu as parlé tout à l'heure,
l'anarchiste.
Et après, on descend vers la Jonction, donc quartier ouvrier, la maison de Lénine, la plaine de Plainpalais, avec d'un côté l'église du Sacré-Cœur, puisque l'église du Sacré-Cœur a été le siège. C'était pas une église, c'était d'abord un temple franc-maçon. Et puis après, c'est devenu une brasserie. Et puis, ça a été le siège de la section genevoise de l'International pendant assez peu de temps. Mais on a des gravures là-dessus qui sont assez, assez belles.
Et ça, c'est toujours très drôle hein, quand on passe devant, pour les gens qui ne savent pas, de leur dire, tu sais ce qu'il y avait là.
Oui. Et c'est, d'ailleurs, si on rentre dans l'église, il y a encore... À mon avis, je n'y connais pas grand-chose, mais il me semble qu'il y a encore des symboles maçonniques dans le plafond, quelque chose comme ça. Mais enfin bon. Et puis après, on va au monument du 9 novembre et des brigadistes, et on passe où il y a eu la maison du peuple, où il y avait la maison du peuple, où il y a eu un centre antifasciste, et on finit où il y a le collège du travail, par un apéro vers midi, une heure par là autour.
Okay.
Donc ça, c'est la promenade avec des commentaires faits à chaque endroit. Il y a des endroits où on s'arrêtera, d'autres où on regardera des lieux en passant. Mais c'est fait par Marianne Henkel en France, sur Bertoni, Charles Heimberg sur l'usine à gaz qui a explosé, où il y a eu 13 morts, comme le 9 novembre d'ailleurs, mais c'était en 1909, qui était à la jonction où il y a Artemis maintenant, où il y avait les services industriels. Et d'autres historiens, moi aussi je ferai un petit speech sur le temple unique le bus de Georges Favreau.
Ok, donc ça c'est pour le samedi 24 septembre. Et puis la semaine d'après, le jeudi 29 septembre, de 18h30 à 22h30, donc à l'UOG, Université ouvrière de Genève, 3 place des Grottes, ici en plein cœur, juste derrière la gare Cornavin à Genève, avec une introduction historique par Marc Villemier, de l'AIT, l'AIT en Suisse, et de Marianne Henkel, les femmes dans l'AIT. Moi, j'en profite pour saluer Marianne, hein, qui est la cofondatrice également du CIRA à Lausanne, obligé pour nous, le Centre international de recherche sur l'anarchisme. Une partie musicale, les chansons ouvrières par les acteurs de la Comédie de Genève, partie apéritive ensuite, et puis Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la Confédération générale du travail française, la CGT, et membre du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et puis Julia Gousseva, militante des droits humains, collaboratrice au Centre d'éducation et de recherche Praxis de Moscou. Ça, c'est donc le jeudi 29 septembre 2016, dès 18h30 jusqu'à 22h30, et donc ce sera autour de « Quel internationalisme ouvrier pour le 21e siècle ?» une conférence et un débat, des discussions avec tout le monde. C'est comme ça que ça va se passer.
Voilà.
Y a-t-il un site internet de référence à ta connaissance? Ou de toute façon, nous, ce sera sur le site de la radio, de toute façon, donc
alors,
pour les auditeurs.
On peut soit, voilà. Donc on trouve, il y a une affichette en tract, certains l'appellent un flyer, moi j'ai mis en tract, mais enfin bon, soit sur le site du Collège du Travail, soit sur le site de la CGAS, www.cgas.ch ou collegedutravail.ch, ou sur le site du site aussi, sur le site de de l'association pour l'étude de l'AEHNO. Donc le plus simple, c'est peut-être d'aller sur celui de la CGAS.
Voilà.
C'est le plus facile à taper.
Ouais. Donc la communauté genevoise d'action syndicale, CGAS.ch. Et effectivement, on va encore peut-être nommer Donc ces événements sont organisés en collaboration avec la CGAS, comme on vient de le dire, Collège du Travail, AEHMO, donc l'association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier, l'UOG. Le GLI, GLI, Global Labour Institute.
C'est une organisation un peu internationale de syndicalistes qui est menée par un ancien secrétaire général de l'association de l'alimentation, des syndicats de l'alimentation, qui s'appelle Dan Gallin, qui est à l'origine en canadien, mais qui est en Suisse depuis très longtemps, et puis qui est lui aussi dans tout, il est au Collège du Travail, enfin, etc.
Très bien, et puis avec le concours de la Comédie de Genève, et puis Passé Simple, qui est ce mensuel roman que tu citais tout à l'heure, un mensuel historique.
Oui, qui a été créé il y a à peu près un peu plus d'une année. J'ai collaboré d'une façon totalement impromptue, parce que... Le rédacteur en chef était une connaissance d'une de mes connaissances qui lui a dit il y avait un article sur le 9 novembre et je l'ai pas vraiment corrigé, mais je l'ai relu pour voir. Puis après, on sait. Et le rédacteur en chef, Justin Favreau, a participé à toutes nos séances quasiment de préparation. Et puis on a fait avec Marianne Henkel, justement, les deux un dossier. Enfin, on a écrit plusieurs articles qui font un dossier sur l'histoire, sur l'histoire du congrès, sur les principaux participants du congrès. Ça, c'est Marianne Henkel qui a fait. Et moi, j'ai fait une partie sur la façon dont ça s'est passé. Je vais peut-être raconter ça quand même.
Oui,
parce
mais
que
oui, certainement.
C'est juste donc le congrès s'est ouvert un lundi. Et il y a eu à peu près un millier de personnes qui ont accompagné les congressistes. Ils sont partis des bastions, enfin il n'y avait pas encore les bastions, il y avait encore les anciens bastions qui étaient là, les monuments, et ils ont passé, ils ont fait un grand périple en passant par les bergs, parce que les bergs étaient un quartier ouvrier, il y avait les cabinetiers, etc., donc les horlogers. Après, ils ont été à la terrassière accompagner les participants au congrès. Le congrès, il y avait dans cette brasserie, qui est une très grande brasserie, semble-t-il, il y avait des drapeaux. Il y avait un drapeau suisse, il y avait le drapeau des pays qui étaient là, et puis un immense drapeau américain, parce que c'était un hommage à l'abolition de l'esclavage qui venait d'avoir lieu, et le président Lincoln avait envoyé une adresse au Congrès en les félicitant de se réunir.
Ouais. Peut-être précise, qu'est-ce qu'on entend par une adresse? On voit une adresse?
Ouais, il a envoyé une lettre d'encouragement aux congressistes.
Ouais, un petit mot, une petite dédicace. On dit.
C'est ça, à peu près.
Génial.
On l'a pas, je crois, malheureusement.
Ah zut, ok.
faudrait qu'on cherche.
Ouais. Georges Tissot, merci. Georges Tissot, d'avoir écorché ton nom. Merci beaucoup d'être venu ici à la radio pour parler justement de ces 150 ans de cette commémoration du premier congrès de l'AIT, de l'Association internationale des travailleurs, qui est née ici à Genève, aux Eaux Vives, on l'a dit tout à l'heure. Merci à toi et puis on s'y retrouvera de toute manière. On vous suivra avec un petit enregistreur pour pouvoir justement par la suite rendre cela à nos auditrices et à nos auditeurs. Merci beaucoup et bonne soirée à toi.
Merci, bonne soirée à vous.
Voilà, alors nous on va s'arrêter là, faire une petite pause musicale. Chers auditrices et auditeurs, à suivre c'est donc l'entretien avec un fait très spécial qui est parmi nous, si j'ai bien compris. On va se laisser 10 minutes de musique et puis juste derrière, on repart avec un entretien, on va parler hip-hop engagé, musique, c'est leur 10e anniversaire à eux, c'est un petit peu plus jeune, c'est un petit peu plus contemporain, mais c'est peut-être pas plus moderne. À voir tout à l'heure, en attendant, on commence par s'écouter, allez, on y va avec du Riot Girls, du punk, c'est les Babes in Toyland, Here's My Thing, c'est parti.